Nous allons parler de Jean-Baptiste. Nous connaissons tous l'histoire de Jean-Baptiste. Un prophète venu annoncer Christ. Un prophète au destin particulier. Un des seuls prophètes de la Bible qui a vu se réaliser sous ses yeux ce qu'il prophétisait. Pardon. Tous les prophètes ont annoncé Christ. Jean-Baptiste est le seul prophète à avoir annoncé Christ et à le voir. Ésaïe, un grand prophète de l'Ancien Testament, il a annoncé la venue au monde du Messie. Il l'a annoncé, mais il ne l'a pas vu. Le prophète Zacharie, un autre prophète. Le prophète Zacharie a annoncé la venue du Messie. Il ne l'a pas vu. Daniel. Daniel a annoncé une succession d'empires mondiaux. Il ne les a pas vus. Il n'a vu que le premier, l'empire babylonien. Les empires suivants, il ne les a pas vus. Ézéchiel. Ézéchiel a prophétisé sur la chute de Jérusalem au temps de la fin. Il ne la verra pas. Jean-Baptiste est le seul prophète à avoir prophétisé la venue du Christ et en même temps, il a pu voir ce qu'il annonçait se réaliser. Nous avons tous, ici présents, un point commun avec Jean-Baptiste. Ce que nous annonçons dans nos articles et dans nos prédications, nous allons le voir se réaliser. Tous, ici présents, appartenons à une génération à la destinée prodigieuse. Nous sommes assurément la génération, la seule génération de toute l'histoire humaine, qui va connaître un enchaînement nécessaire, un enchaînement rapide et brutal d'événements qui vont conduire au retour du Christ. Les événements que nous allons vivre dans les mois et dans les années qui viennent s'accompliront indépendamment de notre volonté. Nous vivons à une époque à laquelle nombreux hommes et nombreuses femmes de Dieu auraient voulu vivre. Nous vivons à l'époque des temps de la fin, c'est-à-dire à l'époque du retour du Christ. C'est ce dont nous parlerons un peu plus tard, dans une semaine, à l'occasion de la fête des trompettes. Jean-Baptiste est un prophète qui, par ses paroles, nous dit ce que nous devons faire pour nous préparer aux événements des temps de la fin. Jean-Baptiste nous a laissé trois paroles. Trois paroles qui sont indirectement trois enseignements qui doivent nous permettre d'atteindre en vainqueur le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces trois paroles. Le premier enseignement de Jean-Baptiste, nous allons voir, nous le trouvons en Matthieu et en Marc. Nous allons le prendre en Marc. Livre de Marc, 6, chapitre 6, verset 18. Nous lisons, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Focalisons sur un point cette phrase. Concentrons-nous sur l'injonction, il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis. Cette mise en demeure de Jean-Baptiste est adressée à Hérode Antipas, qu'il nous faut différencier d'Hérode le Grand. Cette mise en demeure met en avant la loi, les ordres, les prescriptions, les ordonnances et les commandements que l'on trouve dans la Bible. Cet ordre de Jean-Baptiste, cette injonction, il ne t'est pas permis, doit mettre une barrière à nos caprices, à nos ambitions personnelles, à notre égoïsme, et doit nous renvoyer en tout temps et en toute chose au commandement de Dieu. Il ne t'est pas permis signifie qu'il y a des choses qui sont permises et d'autres qui ne le sont pas. Il ne t'est pas permis, nous interpelle sur notre obéissance à Dieu. Sans obéissance, nous ne pourrons pas traverser, relativement sereinement, les événements à venir. Que signifie « il n'était pas permis » Cette courte phrase, cette formule, nous dit que le mal n'est pas permis, que le péché n'est pas autorisé. Aucun usage, Aucune prescription, aucune indulgence du monde ne devrait nous détourner du péché. Il ne peut y avoir aucun justificatif au péché. Même l'amour, le pardon ne sont pas des justificatifs au péché. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Il en est ainsi parce que le péché nous détourne du chemin de la vie et nous fait prendre un chemin qui mène à la mort. Quand nous péchons, nous nous séparons de Dieu. Quand nous nous écartons de Dieu, nous nous séparons de la véritable vie. Et quand nous nous détachons de la véritable vie, nous nous dirigeons vers la mort. Une mort, potentiellement une mort éternelle. Qu'est-ce que la véritable vie? Qu'est-ce que la véritable vie? La vie véritable est une vie au cours de laquelle nous entretenons une relation permanente et étroite avec Dieu le Père. La véritable vie, nous la connaissons, nous la vivons lorsque nous nous détournons des désirs, des nombreuses convoitises qui plongent hommes et femmes dans la ruine et la perdition. Avoir des désirs n'est pas mauvais en soi. Vouloir rechercher le bonheur n'est pas contraire aux enseignements de la Bible. Tout dépend sur quoi portent nos désirs et comment l'on recherche le bonheur. Nos sociétés recherchent le bonheur. Elles recherchent le plaisir et la satisfaction des désirs en contrevenant aux lois bibliques. Et Jean-Baptiste répond à cela en disant, il n'était pas permis. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le vrai bonheur, la vraie vie, c'est de faire des commandements de Dieu notre ligne de conduite. C'est ce qu'avait compris David, à qui l'on attribue le psaume 1. Reportons-nous au psaume 1. Psaume 1. Et nous lisons, Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Pour espérer être un jour dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'autre choix que de mettre en application les commandements de Dieu. Tous les commandements de Dieu. Le psaume 1, dont nous n'avons lu que les deux premiers versets, propose deux voies, et seulement deux voies. Il n'y a que deux voies. Il y a la voie du juste, versets 1 à 3 du psaume 1, et il y a la voie du méchant, les versets 4 à 5 du psaume 1. Deux voies qui s'opposent. Il ne faut pas relativiser les commandements de Dieu. Il ne faut pas non plus relativiser le péché. Le péché mène à la ruine et à la mort. D'abord à la mort physique, puis à la mort spirituelle. Nous vivons dans une société qui relativise toute chose. Le relativisme, c'est croire que nos croyances religieuses et autres croyances dépendent de notre perspective à nous. Le relativisme, c'est croire que la vérité est subjective et qu'il incombe à chacun de nous de décider ce qui est bien ou ce qui est mal. On enseigne aux enfants dans les écoles qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et cet enseignement, aujourd'hui, va très loin. On en est arrivé au point que ce n'est pas parce que je suis né avec des attributs masculins que je suis un homme. Il n'y aurait aucune vérité absolue. La Bible nous enseigne le contraire. La Bible nous enseigne qu'il y a une vérité absolue. Et cette vérité absolue, c'est la parole de Dieu. Jean. Reportons-nous au livre de Jean. Jean 17. Jean 17, verset 17, nous lisons Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité, la parole de Dieu. L'idée selon laquelle le bien et le mal dépendraient des circonstances, de la situation personnelle des uns et des autres, ou encore de ce qu'on en pense, Cette idée est totalement fausse et non biblique. Il y a une vérité absolue. Jean 14, un peu plus haut. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il y a bien un chemin, il y a bien une vérité et il y a bien la vie qui en découle. Nul ne vient au Père que par moi. Quant à savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, la référence, c'est la Bible. La Bible et rien d'autre que la Bible. Bibliquement parlant, certaines choses sont permises, d'autres ne le sont pas. Ce qui est permis ou ce qui ne l'est pas n'est pas laissé à notre libre arbitre. C'est notre Créateur, c'est Dieu qui en décide. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste n'hésita pas, avec un grand courage, à dire à Hérode Antipas, il ne t'est pas permis. Nous sommes tous des pécheurs. Cette vérité, cette évidence, ne justifie pas le péché. Le reproche que Jean-Baptiste adressa à Hérode s'adresse également à nous tous. Hérode, le roi Hérode est mort. Il n'est plus là pour entendre les propos de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, le reproche de Jean-Baptiste s'adresse à nous tous. Le message d'un prophète pour un roi, le roi Hérode, est devenu le message d'un prophète pour tous les lecteurs de la Bible. L'injonction, l'ordre, le commandement, il ne t'est pas permis, s'adresse à nous directement et personnellement, mais également au monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce que nous venons de lire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est l'axe central, le pivot autour duquel tourne toute la Bible. Ce verset, le verset 29 de Jean 1, est la raison de notre espérance. Ce que veut nous dire Jean-Baptiste à travers cette courte phrase, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce que veut nous dire Jean-Baptiste, c'est que l'homme par lui-même ne peut pas se sauver. L'homme par lui-même ne pourra jamais atteindre la vie éternelle. Pour ce faire, pour que nos péchés soient pardonnés, pour avoir l'espérance et la conviction d'entrer un jour dans le royaume de Dieu, il nous faut un sauveur, c'est-à-dire une personne qui puisse payer l'amende encourue pour nos péchés et les effacer. Cette personne, ce fut Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu qui a vaincu la mort. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Notons que si Christ ne s'était pas que si Christ ne s'était contenté que de payer l'amende encourue pour nos péchés, cela n'aurait pas suffi pour qu'on puisse un jour entrer dans le royaume de Dieu. Après avoir payé l'amende encourue pour nos péchés, il a fallu aussi que Christ ressuscite, puis se présente à son Père, et que son Père agrée le sacrifice de son Fils. Nous sommes réconciliés avec Dieu le Père par la mort de son Fils. Si nous sommes réconciliés avec Dieu le Père par la mort de son Fils, à plus forte raison, nous sommes sauvés de la mort éternelle par la résurrection et la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme qui s'est donné un sauveur, mais le sauveur lui vient de la miséricorde éternelle de Dieu le Père. Être un disciple du Christ, être un véritable disciple du Christ, c'est se rappeler que Christ est mort pour nos péchés, que c'est lui qui enlève le péché du monde. C'est également se rappeler que le sacrifice de Christ nous réconcilie avec le Père, avec lequel nous devons développer des liens étroits. Dieu le Père et Christ doivent être intimement impliqués dans nos vies et nous devons développer une relation avec eux deux, mais également avec tous ceux et toutes celles qui partagent la même foi et la même espérance. Dans quelques semaines, nous nous retrouverons sur des sites de fête et nous aurons l'occasion de fraterniser avec des personnes qui ont la même foi que la nôtre et qui partagent la même espérance que la nôtre. Nous avons lu précédemment que Jean-Baptiste nous disait qu'il n'était pas permis de vivre dans le péché. S'extirper du péché, s'éloigner du péché, vivre une vie sans péché, c'est un défi à relever. Un défi difficile, un challenge. Un challenge quasiment impossible à réaliser seul et par nous-mêmes. Même si nous arrivions à relever ce défi par nos propres forces, ce qu'aucun homme n'est encore arrivé à faire. L'absence de péché ne ferait pas entrer dans le royaume de Dieu. Cela peut nous y mener, mais pas nous y faire entrer. Ce qui nous fera entrer dans le royaume de Dieu, c'est bien entendu une vie de repentance, mais avant tout notre acceptation du sacrifice du Christ, sacrifice qui nous réconcilie par son sang avec Dieu le Père. Christ à ôter et porter nos péchés, pas seulement les nôtres d'ailleurs, mais ceux de toute l'humanité. Jean ne parle pas des péchés au pluriel. Il nomme le péché au singulier. C'est plus complet et cela a une portée plus étendue. C'est le message central de Jean-Baptiste. Relisons-le. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À travers ce verset, Jean-Baptiste nous fait comprendre qu'il nous faut accepter le sacrifice du Christ, qu'il nous faut accepter le sacrifice de l'agneau de Dieu et nous détourner du péché. Pour ce faire, il nous faut incorporer en nous la vie du Christ et vivre comme Christ a vécu. Lorsque Jean-Baptiste annonce publiquement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne s'adressait pas à un homme particulier, mais à tous ceux et à toutes celles qui acceptent le sacrifice du Christ. Jean-Baptiste, met l'accent sur le rôle de sacrifice de ce Jésus-Christ. Christ n'est pas seulement le Messie, en hébreu le Machia, mot qui signifie loin ou l'élu, mais Christ est également le Sauveur. En fait, Christ est le parfait agneau de Dieu qui a le pouvoir d'enlever les fautes, d'effacer la culpabilité, de faire l'expiation des péchés. Christ nous réconcilie également avec Dieu le Père. Dans quelques semaines, nous célébrerons la fête des expiations et nous reparlerons de ce sujet. Le péché, une fois enlevé, il ne faudrait plus pécher. Nous devons lutter contre le péché, nous devons nous en défaire. Certes, nous péchons et pécherons encore, et nous devons de ce fait continuellement nous repentir de nos péchés et ne pas les répéter sans cesse. N'oublions jamais que Dieu ne demande qu'à nous aider. Lisons à ce sujet le psaume 46. Psaume 46. Psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée. Verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'aide de Dieu ne manquera jamais. Encore faut-il s'adresser à lui pour lui demander. Cherchez à ne plus pécher. Incorporez en nous la vie du Christ et vivre comme il a vécu m'amène à une troisième parole de Jean-Baptiste. Reportons-nous à Jean 3, Jean chapitre 3, Jean verset 30. Nous lisons Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce verset que nous venons de lire, ce verset à lui seul, à lui tout seul, résume ce que doit être une vie chrétienne, ce que doit être notre vie chrétienne. Ce verset est également un verset prophétique. Il faut qu'il croisse et que je diminue. En effet, Jésus grandira. Son règne s'étendra sur le monde entier. Toute puissance lui sera donnée au ciel et sur la terre. Quant à Jean, Quand il prononce ces paroles, il va bientôt devoir arrêter sa mission, perdre de son influence, et sa vie même s'éteindra dans un cachot où on lui coupera la tête pour qu'elle soit offerte en cadeau à l'occasion de l'anniversaire du roi Hérode. Le verset où nous lisons, il faut qu'il croisse et que je diminue, est la meilleure définition que l'on puisse donner de l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est une disposition à s'abaisser volontairement en faisant preuve d'une grande déférence envers quelqu'un d'autre. La déférence, c'est quoi la déférence? La déférence, c'est avoir de la considération, une considération respectueuse à l'égard d'une personne, considération qui nous porte à nous conformer à ses désirs et à sa volonté. La Bible définit l'humilité comme de la douceur, de la modestie et du renoncement à soi. Jésus-Christ est notre modèle. Tout comme il est venu non pour être servi, mais pour servir, nous devons également servir les autres en faisant passer leurs intérêts avant les nôtres. Reportons-nous au livre des Philippiens, Philippiens chapitre 2. Et on prendra les versets 3 à 5, Philippiens 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Christ doit vivre sa vie en nous. Notre moi, c'est-à-dire le vieil homme qui est en nous, notre moi, c'est-à-dire l'homme charnel, doit passer avec ses convoitises, ses souillures et ses faiblesses. Cet homme-là, le vieil homme, doit diminuer. Cet homme-là doit s'effacer et Christ doit le remplacer. L'anneau de Dieu doit croître en nous. Nous devons laisser se développer en nous la joie, la paix, la pureté, la vérité. Tout ce qui mérite de progresser et de grandir spirituellement doit se faire dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Lorsque nous lisons, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut faire attention à l'ordre des mots. Ce n'est pas nous qui devons croître en premier, mais Christ. Et ensuite, nous devons progressivement nous effacer pour laisser toute plénitude à Christ. Certains, en lisant ce verset, comprennent qu'il faut croître. Certes, il faut croître, c'est-à-dire toujours s'imprégner davantage de la parole de Dieu. Grandir en développant de façon progressive des qualités chrétiennes. C'est bien. Dans le monde, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui ont des qualités chrétiennes et qui n'appartiennent pas pour autant au corps spirituel de Dieu. Un exemple. L'église de Laodicée en est l'exemple même. C'est une église qui a de nombreuses qualités chrétiennes. C'est une église, entre autres, qui respecte le sabbat hebdomadaire ainsi que les sabbats annuels. Christ ne fait aucun reproche à ce sujet. C'est une église dans laquelle, majoritairement, les gens payent leurs dîmes, leurs offrandes. C'est une église dans laquelle on ne mange pas de porc. C'est une église qui suit les commandements. Et pourtant, Dieu la rejette. Parce que c'est une église qui ne laisse pas Christ aux commandes. C'est une église qui diminue le rôle du Christ au profit de son propre rôle, alors que ça devrait être l'inverse. Il faut que Christ grandisse en nous. Il faut toujours lui laisser plus de place, et progressivement notre nature humaine, notre nature charnelle, devra s'effacer. Il est écrit que celui qui prétend avoir connu Christ et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Si nous affirmons que Christ est en nous, cela signifie que nous devons vivre comme Christ a lui-même vécu. Nous devons laisser Christ vivre en nous et nous-mêmes nous effacer. C'est ce que veut dire Jean-Baptiste quand il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Pour conclure, je vous redonne les trois paroles de Jean-Baptiste que nous avons vues aujourd'hui. La première, il n'était pas permis. Parole relative au péché dont nous devons nous débarrasser. Il n'est pas permis de pécher. Il n'était pas permis. La deuxième parole que nous avons vue, la deuxième parole de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parole relative au fait que nous devons accepter le sacrifice du Christ et reconnaître Christ en tant que Fils de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la troisième parole que nous avons vue, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Cette parole résume toute notre vie chrétienne, une vie de conformité à la vie que Christ a menée. Notre moi doit s'effacer. Et Christ doit prendre sa place. Qu'il puisse en être ainsi. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon sabbat.